Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le secrétaire général de l'ONU demande à tous de respecter la décision du tribunal spécial pour le Liban qui a jugé coupable deux membres du Hezbollah, un jugement lié à l'attentat du 14 février 2005 à Beyrouth et qui a coûté la vie notamment à l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Combattre le fléau de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, une commission indépendante existe en France pour orienter l'action publique. Son coprésident, l'ancien juge des enfants, expert sur les questions de la protection de l'enfance, Édouard Durand, sera l'un de nos invités. Le 27e jour de l'agression de l'Ukraine par la Russie, 3,5 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont fui l'Ukraine depuis le 24 février. Le gouvernement lance un appel au calme et au dialogue en Corse au lendemain de l'annonce de la mort d'Ivan Colonna. Même s'il n'y a pas eu de violence la nuit dernière, Ivan Colonna avait été condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Emmanuel Macron s'est engagé, s'il est réélu, à faire verser les aides sociales à la source de manière automatique. La réaction dans votre journal de Jacques Baudrier, adjoint PCF à la maire de Paris, soutien du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel. Le secrétaire général de l'ONU demande à tous de respecter la décision du tribunal spécial pour le Liban qui a jugé coupable deux membres du Hezbollah. Le TSL, qui est récemment revenu sur la décision de la chambre de première instance et a donc jugé coupable en appel deux membres présumés du Hezbollah dans l'attentat perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth et qui a notamment coûté la vie à l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Leur condamnation résulte du procès de l'appel du procureur canadien Norman Farrell contre les conclusions de la chambre de première instance. En 2020, le tribunal avait déjà condamné à la perpétuité par contumace un autre membre présumé du Hezbollah, Salim Ayash, notamment pour homicide intentionnel. Chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles en France. Gros plan sur les actions de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Créée par le gouvernement, elle part à la rencontre des victimes à travers la France pour recueillir des témoignages. La Civise se rendra ce mardi à 17h à l'Université Lumière 2 de Lyon. Une rencontre ouverte au public en présence de ses deux coprésidents, Nathalie Mathieu et l'ancien juge des enfants, expert sur les questions de la protection de l'enfant, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Édouard Durand, entretien avec Édouard Durand qui vient de publier « Défendre les enfants, la mission d'un juge » aux éditions du Seuil. Édouard Durand.
La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a été installée le 11 mars 2021, donc il y a un an désormais, et sa mission principale est de recueillir la parole des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et notamment d'inceste dans leur enfance. Elle a aussi pour mission, par l'expertise de ses membres et par l'audition d'experts et d'institutions, de faire des préconisations de politique publique. Et c'est pourquoi chaque mois, nous réunissons, nous auditionnons des experts et nous repérons ceux qui fonctionnent, mais aussi ceux qui dysfonctionnent dans la chaîne d'intervention des professionnels, dans la chaîne de la protection. Mais à mesure que nous avançons dans nos travaux, et tout particulièrement depuis le lancement de notre appel à témoignages le 21 septembre 2021, nous avons compris que notre vocation était d'être l'espace où les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance pourraient se rassembler, être écoutées, se réunir, être crues, et par une parole légitime et forte, faire des préconisations de politique publique.
Être cru, dites-vous, c'est un élément essentiel.
Oui, c'est absolument fondamental. Vous savez, la question est, qui voulons-nous protéger? Or, un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Le risque que nous courons, quel que soit notre métier, quel que soit notre rapport familial, professionnel, institutionnel avec un enfant victime de violence, le risque que nous courons n'est pas d'inventer des enfants victimes, mais au contraire de laisser passer sous nos yeux des enfants victimes de violences extrêmement graves et de ne pas les protéger. C'est pourquoi il faut croire l'enfant qui révèle des violences, le croire au sens de le mettre en protection immédiatement.
Cela touche bien entendu l'ensemble des milieux sociaux.
Oui, les violences sexuelles et notamment l'inceste existent dans tous les milieux, dans toutes les sociétés, dans toutes les catégories professionnelles, sociales, familiales, institutionnelles. Et nous devons être vigilants au mécanisme de la violence et à la stratégie de l'agresseur. Parce que lorsqu'on écoute des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, dans l'enfance ou à l'âge adulte, on arrive à comprendre ce que l'on doit appeler la stratégie de l'agresseur. Vous savez, l'agresseur, il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il dévalorise, il passe à l'acte, il inverse la culpabilité, il recherche des alliés pour assurer son impunité. Et face à la stratégie de l'agresseur, il faut toujours opposer une stratégie de protection.
L'agresseur qui, en l'occurrence, est un membre de la famille, et cela peut rendre le témoignage plus difficile.
Oui, dans les cas d'inceste, tous les repères sont brouillés. Le passage à l'acte incestueux vient altérer l'identité de l'enfant et sa place unique et inaliénable dans une filiation. C'est pourquoi on peut dire que l'inceste est un crime contre l'identité, contre l'humanité du sujet. Et l'agresseur va toujours dire « c'est parce que c'est toi, c'est parce que toi je t'aime ». Il va renverser les valeurs, il va dire « mais c'est normal, tous les pères, tous les frères, tous les oncles font comme ça ». Et donc, l'enfant vit dans un système où il est piégé par la stratégie de l'agresseur et les psychiatres disent que les enfants se dessinent souvent sans bouche parce que l'agresseur a imposé le mauvais secret. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que l'enfant révèle des violences, mais il faut inspirer confiance à l'enfant pour qu'il se dise « cette personne-là, je peux lui dire, elle va me protéger ».
Alors cela, c'est quand l'enfant est capable d'exprimer ces violences qui peuvent créer une amnésie traumatique, avec le souvenir qui peut ressurgir des années, voire des décennies plus tard. Que faire dans ce cas-là?
Et en effet, il faut vraiment prendre en compte l'apport des connaissances pour augmenter notre capacité de protection, notamment sur le psychotraumatisme, la mémoire traumatique et l'amnésie traumatique. Il faut vraiment arriver à mieux prendre en compte que des violences sexuelles d'une telle gravité vont venir attaquer gravement le développement de l'enfant qui les subit, y compris par le mécanisme de l'amnésie traumatique. Et pour prendre en compte ces mécanismes, là encore, il faut opposer une stratégie de protection pour permettre à l'enfant victime, quand il est remis en sécurité, de dire les violences qu'il a subies et de lui procurer des soins spécialisés en psychotrauma qui vont lui permettre de reprendre son développement. C'est extrêmement important. Nous savons aujourd'hui qu'il existe des soins spécialisés en psychotrauma et que les enfants victimes doivent en bénéficier dans l'urgence.
Cela peut concerner aussi les adultes dont le souvenir traumatique ressurgit.
Oui, absolument, vous avez raison. Cela peut concerner aussi les adultes. Et dans l'appel à témoignages que nous avons lancé, nous recevons beaucoup de personnes qui nous disent que c'est très longtemps après les faits de violence sexuelle qu'elles sont sorties de l'amnésie traumatique. Et certaines personnes nous disent que c'est par un élément qui, de l'extérieur, peut paraître mineur, mais qui en réalité a une grande importance, que la sortie d'amnésie a été possible. Parfois même, ces personnes nous disent que c'est par le ressenti de la souffrance physique que la sortie d'amnésie s'est opérée.
Vous proposez aux victimes de témoigner à travers un numéro de téléphone, le 0805 802 804 pour la métropole et le 0800 100 811 depuis l'outre-mer. C'est important aussi.
Oui, absolument, pour l'outre-mer et pour les Français de l'étranger, parce que nous voulions deux choses impérativement et nous l'avons conçu comme un devoir moral à l'égard des personnes qui nous font confiance et qui veulent nous confier leur témoignage. Nous voulions d'une part que ces personnes soient écoutées par des professionnels ou des bénévoles spécialisés dans le recueil de la parole des victimes des violences sexuelles ou le recueil de la parole des personnes en état de souffrance psychique intense, pour pouvoir leur apporter une écoute et une réponse adaptés à leurs besoins et à leur état émotionnel. Et puis nous voulions aussi qu'il y ait une égalité de traitement entre toutes les personnes, quel que soit le lieu où elles habitent. Nous voulions que, quel que soit le fuseau horaire, que la personne appelle de Nantes ou de Fort-de-France, de Rabat ou de Lille, que chaque jour, à l'heure d'ouverture des dispositifs d'écoute, il y ait toujours la même disponibilité. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 6 mois maintenant, nous avons reçu plus de 10 000 témoignages, toutes modalités de témoignages confondues. Il y a donc un mouvement immense dans la société. La vague était souterraine et elle émerge. Et il est temps que la société prenne conscience qu'elle est responsable de la protection de ses enfants.
L'ancien juge des enfants, expert sur les questions de la protection de l'enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants, Édouard Durand. Il copréside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Son dernier ouvrage, Défendre les enfants, la mission d'un juge, aux éditions du Seuil. Et je vous rappelle les deux numéros pour témoigner, le 0805 802 804 pour la France métropolitaine et le 0800 100 811 pour l'outre-mer ou les Français de l'étranger. 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Les troupes russes cherchent toujours à encercler Kiev, où un nouveau couvre-feu a été instauré depuis hier soir à 20h jusqu'à demain matin à 7h. Le président ukrainien souhaite rencontrer Vladimir Poutine, avec lequel il est prêt à discuter à propos des régions du Donbass et de la Crimée. Et il affirme que tout compromis dans les négociations avec la Russie en vue de mettre un terme au conflit sera soumis à référendum dans le pays. La France a acheminé hier 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l'Ukraine, un acheminement via la Pologne. Les États-Unis affirment être prêts à prendre des décisions difficiles pour sauver l'accord visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, cela dans ses limites instaurées par l'accord de Vienne de 2015. La France, co-signataire de l'accord, a de son côté insisté sur l'urgence à conclure en raison des avancées majeures dans le programme nucléaire iranien. En Algérie, la compagnie pétrolière d'État, la Sonatrach, vient d'annoncer la découverte d'un important gisement pétrolier, une découverte dans le bassin de Berkine grâce au forage effectué par la société Eni. Selon la Sonatrach, ce nouveau gisement possède une capacité de production de 7000 barils d'huile et 140 000 mètres cubes de gaz associés par jour. Cela représenterait environ 140 millions de barils de pétrole brut. C'était dimanche, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a prononcé un discours félicitant la Tunisie. Il a salué les succès réalisés dans le domaine de la santé, citant notamment le taux de vaccination contre le Covid-19 qui a atteint près de 60% en Tunisie. Emmanuel Macron s'est engagé, s'il est réélu à la présidence de la République, à faire verser les aides sociales à la source de manière automatique. Cela bénéficierait, selon lui, aux 20 millions de Français qui touchent le RSA, la prime d'activité, des aides au logement ou des allocations familiales. La réaction de Jacques Baudrier, adjoint communiste à la maire de Paris, soutien du candidat communiste à l'élection présidentielle Fabien Roussel. Il était l'invité de Pluriel hier soir. Extrait.
C'est un vrai sujet, le non-recours au droit. C'est une vraie question. Mais le sujet pour Fabien Roussel, c'est avant tout que tout le monde ait du travail. Donc la proposition pour que tout le monde ait du travail. Déjà, le fait d'investir massivement, de réindustrialiser la France, ce que souhaite faire Fabien Roussel, parce qu'au lieu on l'a désindustrialisé, toute la droite, la droite qu'elle soit à la sauce Macron ou Pécresse, elle n'a fait que désindustrialiser enlever, envoyer l'emploi, nos usines automobiles en Europe de l'Est, un certain nombre d'usines en Chine ou à peu près en Extrême-Orient, c'est de réinternaliser, c'est d'ailleurs essentiel pour le climat, c'est donner du boulot à tout le monde. Et puis tous ces investissements que je vous dis pour le climat, construire des métros, construire des voitures moins polluantes, électriques qui soient moins chères, tout ça, ça participe à donner du boulot. Et du boulot que Fabien Roussel propose de payer au moins 1500 euros net. Donc le sujet avant tout, c'est donner du travail bien rémunéré à tout le monde.
Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans. Quelles seront les conséquences pour les personnes qui n'auront pas assez cotisé, Jacques Baudrier? Je pense notamment aux seniors qui seront au chômage et qui seront obligés d'attendre l'âge de 65 ans pour toucher leur retraite.
C'est dramatique, surtout que quand vous savez que l'espérance de vie d'un ouvrier en bonne santé, c'est 55 ans. Donc la retraite à 65 ans pour les ouvriers, ça veut dire pour une grande partie des ouvriers, pas de retraite du tout. Et puis c'est aussi dramatique, et vous avez raison de souligner, pour ceux qui sont, et heureusement en bonne santé, mais qui n'ont plus de travail au-delà de 60 ans et qui vont être précarisés dans une situation sociale dramatique, et ça va toucher des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc ce que propose Fabien Roussel, c'est de, au lieu de prendre aux pauvres, parce que voilà, c'est le Robin des Bois inversé, Emmanuel Macron, il veut le prendre aux pauvres pour donner aux riches. Parce que propose Fabien Roussel, et c'est le programme le plus ambitieux dans ce domaine, le SMIC le plus élevé, c'est de rétablir l'impôt sur la fortune, les multiplier par trois, pour financer des mesures comme pas de retraite en dessous de 1200 euros. Quand on se rend compte qu'une écrasante majorité de femmes ont des retraites inférieures à 1000 euros net par mois, donc vivent dans des conditions matérielles très difficiles, la retraite à 1200 euros net, et Fabien Roussel est le seul candidat à proposer cette avancée sociale forte, beaucoup plus que les autres candidats, c'est une avancée sociale énorme et une avancée particulièrement féministe, parce que les femmes sont extrêmement discriminées en termes de salaire.
Jacques Baudrier, adjoint PCF à la maire de Paris, soutien du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur radioorient.com. Et ce soir, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Mélissa Camara, porte-parole de Yannick Jadot, élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Lille et au conseil métropolitain. Le gouvernement français lance un appel au calme et au dialogue en Corse au lendemain de l'annonce de la mort d'Ivan Colonna. Même s'il n'y a pas eu de violence la nuit dernière, Ivan Colonna avait été condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Le porte-parole du gouvernement assure que toute la lumière sera faite sur l'agression dont le militant indépendantiste a été victime en prison. Ivan Colonna est décédé hier soir à Marseille après 3 semaines de coma après sa violente agression à la maison centrale d'Arles dans les Bouches-du-Rhône par un co-détenu radicalisé. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.